Chapitre 2. Le soleil se levait derrière la falaise, aussi frais, aussi beau, aussi lumineux qu'au temps où les hommes l'adoraient en l'appelant Apollon. Il dardait ses flèches d'or sur la mer sombre qui enroulait les étincellements dans les flots, semblable à la dépouille opime de quelque naufrage. Une ceinture rose ceignait le ciel comme une guirlande de fleurs divines au flanc d'Aphrodite, et l'étoile verte qui porte le nom de la lumière dont elle est la présage s'effaçait dans le ciel où s'écoulaient des traînées de jour à travers des ombres lentes à disparaître. Un vent presque liquide de fraîcheur s'élevait de la mer et déroulait les perles de rosée suspendues à la schiste marine de la falaise, tapis nuancé d'une pourpre violette et roulé par les pieds nus des jeunes pêcheuses. Les premiers bruits du jour se faisaient entendre au loin, mais confus encore comme le premier réveil des hommes, distincts seulement à cause de la pureté de l'air du matin. Zomegode, qui se levait toujours pour aller ramasser la première feuille tombée du bouquet aérien de l'aurore, fleur impalpable, respirée par le regard et gardée dans la pensée, ce sein plus intime que le sein, et où, comme sur l'autre, elle ne se flétrissait pas. Sommegode, le Chrysès de ses plages, revenait des grèves à sa masure, inquiet de ses hôtes que le grand jour, devenu pénétrant, avait sans doute réveillés. Il croyait bien les retrouver assises aux pierres de la porte, admirant ce magnifique spectacle de la mer où le soleil luit et des horizons que le jour infinitise. Il se trompait, il n'y était pas. Il les aperçut par la porte entr'ouverte. Altaïe, debout derrière celle dont il ne savait pas encore le nom, le philosophe attachait quelque imperceptible agrafe à la robe comme l'aurait pu faire une humble servante. Le poète, arrêté sur le seuil, ne se mit point à sourire de la simplicité de ce détail. Ce sont les hommes grands et forts qui ont la grâce des petites choses. Ils mettent dans les riens une amabilité à faire pleurer. Ô vous qui disiez que l'âme se mêle à tout, vous aviez bien raison, ô grande pythonisse à la lèvre entr'ouverte. Il y a des maternités plus ineffables que celles des mères, des grâces plus grandes que celles des femmes, dans l'homme pâle et grave qui pose un châle sur des épaules ou qui lasse un brodequin d'effet. « Amadaïne, c'est notre hôte, » disait Altaïr en levant la tête. Il venait d'achever son travail. L'agrafe avait fixé la robe sur le sein de la femme qui se tourna vers le poète en lui disant un bonjour déjà familier. Sommegode put mieux juger de la beauté qu'il avait frappée d'abord en Amaïdée quand il l'avait vue pour la première fois. Les nattes de ses cheveux n'étaient point souillées de poussière, le teint noirci de la sueur du voyage, le front maculé de ses grandes taches d'un rougeâtre et livide que l'on doit à l'échauffement et à la fatigue. Les cheveux n'avaient plus d'autre nuance que celle de quelques tresses dorées qui rayonnaient capricieusement dans leurs jets et qui s'en détachaient d'une façon plus vive aux obliques ondulations de la lumière. Le teint avait repris sa couleur uniforme et mate, dans laquelle circulait une vie profonde, sans pourpre aux joues, sans blancheur nulle part. C'était un bistre fondu dans les chairs. Les sourcils, noirs et arqués, se prolongeaient fort loin dans les tempes, ce qui donnait une expression remarquable à ses yeux, dont les larges prunelles étaient jaunes et d'une si admirable transparence qu'on allait d'un seul trait au fond de son regard étincelant, humide, cristallin et calme, avait dit Altaïr, comme un lac au pied des montagnes, mais quand le soleil verse son or pur dans une mélancolique soirée. Ce regard ne trahissait rien du passé, de la vie, de l'âme. Il était doux comme l'indifférence, un peu vague mais sans rêverie qui l'égara loin de vous. de flamme plus rapide qui s'en échappa, il n'y en avait point. Jamais un désir ne le tournait éloquemment vers le ciel. Jamais un regret ne l'abaissait vers la terre. Ce n'eût pas été un regard de femme si la peine n'avait gonflé en les violaçant les veines fatiguées qui erraient et se perdaient aux paupières. Là retentissait la vie muette ailleurs, et aussi dans un sillon entre les sourcils, trace d'une pensée rarement absente. Quand cette pensée revenait plus triste ou plus amère, le sillon se creusait davantage. Mais le rapprochement des sourcils n'était ni heurté ni même subi. Il se faisait avec une lenteur harmonieuse et n'altérait jamais la fixité habituelle du regard. Toute la physionomie de cette femme était dans ce simple et fréquent mouvement de sourcils. Le front était bas, les joues larges, la lèvre roulée et accusant dans son éclat terni les ardeurs fiévreuses de la laine, ce simoun du désert du cœur qui règne dans les bouches malades de la soif toujours trompée et des voluptés de la vie. Elle vint s'asseoir à la place ordinaire du poète, en dehors de la cabane, et s'appuyant le menton dans sa main, elle regarda la mer avec ses yeux aussi humides et aussi diaphanes que les flots dans une anse peu profonde. Le jour doux et argenté du matin adoucissait merveilleusement ce qu'il y avait de hâve dans cette beauté qui ressemblait à une rose jaune presque déchirée à force d'être épanouie et que le temps avait meurtrie. Et mille souffles et mille mains, Altaï et Gomdon s'assirent près d'elle. « Oh, Amadei !» lui dit Altaï, « à quoi penses-tu devant un spectacle si nouveau pour toi ? Ne t'épouvantes-tu pas de cette vie qui commence et à laquelle tu fus si peu accoutumé par celle dont tu as vécu jusqu'ici ?»« Non, je ne m'épouvante pas, » dit-elle. « Doutes-tu déjà de mon courage, Altaï ? Crains-tu que les mollesses de ma vie m'aient brisé au point de me rendre incapable du moindre effort ? Et d'ailleurs, tout était-il donc mollesse dans cette vie que tu me reproches ? Ai-je moins bien dormi sur le lit de feuilles sèches de sauvegode que sur les lits de soie abandonnés ? Non, mon enfant, répondit le philosophe, plus jeune que celle à qui il s'adressait cette appellation protectrice, mais bien plus vieux par la sagesse, cette paternité plus auguste que celle des cheveux blancs et de la nature. Ce serait déjà bientôt pour te démentir. Sais-tu, Altaï, ajouta Amadei d'une voix lente, que l'accent dont tu dis cela est bien triste. Ô homme que l'on dit être fort, ta parole n'est jamais découragée, mais ta voix l'est toujours. Pourquoi ? « Parce que je connais la destinée et la vie, » répondit Altaï, en prenant dans ses bras la taille d'épis tremblant de la jeune femme qu'il avait peut-être craint d'affliger, « et que je n'attends rien d'elle d'eux. » Amadei écarta la caresse et fronça légèrement ses longs sourcils. « Non, ce n'est pas pour moi qui suis cruel, » reprit Altaï. « Amadei, c'est pas pour moi. » « Oh, some God !» dit Amadei avec une adorable naïveté. Seule chose qu'elle eût gardée, seul trésor qu'elle n'eût pas dépensé dans ses somptuosités de Cléopâtre. « Il ne croit à rien, pas même à moi, qui ai tout quitté pour le suivre. Quand je lui parle de mon amour, il ne rit pas, mais il est pourtant aussi sceptique que s'il branlait la tête en riant. Et il m'embrasse au front, comme un enfant malade qu'on apaise. » « Mais tu ne m'avais pas parlé de cet amour, ô Altaï !» dit Somgod avec une voix grave. « À quoi bon ?» répondit le philosophe, « puisque je n'y croyais pas. » Une larme, une de ces larmes qui en valent des torrents dans les yeux de celles qui sont restées pures, cerna les noirs cils d'Amadei, mais ne roula point sur sa joue, quoique cette âme sans fierté ne mit pas sa gloire à la dévorer. Altaï la vit. « On ne supprime point une larme en l'essuyant, dit-il. Mais ô Amaïdé, une larme n'est jamais stérile, et on se purifie quand on pleure. Et quand on aime, reprit la femme avec noblesse. Mais le philosophe secoua la tête. Un sourire de dédain ouvrit ses lèvres, comme le précurseur de quelque réponse inflexible. Puis le dédain se changea en sourire de mélancolie, et il n'osa pas appuyer son stoïcisme sur cette pauvre créature abattue, qui croyait que l'on se relevait de la mêlée en saisissant encore une fois les genoux d'un homme et en tordant passionnément ses beaux bras autour de ce dernier autel. « Écoute-moi, ô Amaïdé, dit Altaï. L'amour passe et la vertu demeure. Si je t'ai entraîné avec moi, ce n'était ni comme une victime ni comme une esclave. Je ne suis point un de ces insolents triomphateurs de l'âme des femmes, chassant devant eux les troupeaux qui leur serviront d'hécatombe. En me suivant, je te voulais libre. Je le désirais, du moins. Tu ne l'étais pas, et c'est peut-être la raison pour laquelle tu es venue. Vous autres femmes, vous n'avez que des enthousiasmes et n'obéissez qu'à des sentiments. Mais si je te laissais obéir au tien, ô mon enfant, si je ne te mis pas la main sur la bouche quand tu me répétas cette triste parole que tu m'aimais, et si je ne partis pas seul, c'est que j'étais sûr que le temps t'arracherait du cœur cette épine et que je te voulais meilleure qu'heureuse. » Amaïdé avait posé son front sur la main qui soutenait son menton tout à l'heure. Son cou dessinait une courbe charmante. On aurait dit une mélancolie éplorée ou une résignation qui se ployait sous les paroles d'Altaï. Que se passait-il en cette âme comme cachée sous le corps incliné, dans cette femme qui semblait sombrager d'elle-même? Altaï regardait la terre en prononçant les mâles paroles auxquelles elle n'avait pas répondu, et Somegod, tourmentant une longue mèche de ses cheveux noirs sur sa tempe gauche, avait la tête tournée vers le ciel, dans l'éclat duquel sa tête brune et son profil à arêtes vives se dessinaient avec énergie. Le soleil coiffait des graines étincelantes les différents pitons des falaises. Il semblait que tous ces noirs géants se fussent relevés de leur grand jet d'ombre où ils étaient disparus et avaient repris leur casque d'acier. La vie envahissait davantage les grèves solitaires où la marée montait avec le jour, et les pêcheurs tendaient leurs gracieuses voiles latines et se préparaient à quitter le havre qui les avait abrités. Tout était mouvement et allégresse, excepté sur ce sunium sans blanche colonnade, plus sauvage et plus modeste que celui où s'asseyait Platon. Là, la vie avait revêtu de plus solennels aspects. Les trois personnes qui en attestaient la présence restaient dans leur pose silencieuse. Immobilité et silence, ces deux choses qui sciaient si bien à tout ce qui s'élève de la foule, ce double caractère de tout ce qui est profond et grand, et qui faisait comprendre à l'artiste des temps anciens qu'on ne pouvait représenter dignement les dieux qu'avec du marbre. Amaïdé, Altaï, Somegod étaient un peu plus que ces mariniers hâles et nerveux qui s'agitaient au bas de la montagne et au bord des ondes, sous les rayons du soleil levant que défiait la nudité de leur poitrine. À eux trois, ne représentaient-ils pas l'amour, la poésie, et la sagesse? Ils passèrent cette journée et les suivantes à errer le long des rivages et à vivre de cette existence qui était vague pour Altaï et Maïdé et qui n'était profonde que pour Somegod. Car pour que les choses extérieures entrent dans l'homme, il faut être accoutumé à les contempler longtemps et l'on n'en conquiert pas l'intelligence avec un regard léger comme les cils d'où ils s'échappent. Somegod faisait pour ainsi dire à ses hôtes les honneurs de la nature. Altaï n'avait pas repris la douloureuse conversation du premier matin. Amaïdé, muable, sensitive, avait oublié les impressions cruelles qui avaient chargé son œil de pleurs et son front de tristesse. Entre la femme et l'enfant, il n'y a que la différence d'une émotion. Quand l'émotion grandit, l'enfant devient femme. Quand elle diminue, la femme redevient un enfant. Elle se rapetisse, comme ce génie des contes arabes, qui, de géant, se rapetissait jusqu'à entrer dans une petite urne, cette étroite demeure dans laquelle l'homme ne saurait tenir qu'en poussière. Amaïdé jouissait de cette nouveauté de spectacle et d'impression en âme mobile et avide. Oh, pauvres âmes blasées que nous sommes! La nouveauté est-elle une si grande charmeresse? Si c'est moins l'ondoyance de la nature humaine que son épuisement si rapide qui nous fait y trouver tant de charme, qu'elle est comme une jeunesse dans cette vie, sol rude et dépouillé, route parcourue et dont on a compté les pierres en posant ses pieds d'aujourd'hui dans la trace de ses pas d'hier. Altaïr a laissé s'ébattre aux négligences de cette vie sauvage et libre. Il semblait se fier au dictame de l'air vif et pur qui circulait autour d'eux pour guérir cette âme blessée et pour lui donner la force de se laver de ses souillures en l'élevant vers Dieu par la pratique de la vertu. Comme les convalescents à qui l'on prescrit des exercices tempérés, le grand air, le rayon de soleil qui réchauffe, on pourrait prescrire aux âmes malades la mer, le ciel, les fleurs, les bois. Tout se tient, tout s'enchaîne, tout est un dans l'homme et dans la nature. La vie de l'âme est aussi mystérieuse que la vie du corps, mais c'est également de la vie. Ceux qui ont gravi une montagne savent quel poids on laisse toujours aux pieds. Ils savent que nous n'emportons pas au sommet les soucis cruels qui nous rongent. Ils savent que cet air pur, plus éthériel que l'on respire, nourrit mieux la substance humaine. Oh, vous, qui avez un gosier de rossignol et des ailes d'aigle, oiseau si merveilleux que l'homme vous a si souvent nié, ô poète, grands artistes, mille fois fils d'Apollon amoureux de sa sœur divine, et toi, ô nature, ne l'avez-vous pas appris? Nature, mère des dieux et des hommes, comme disait le panthéisme ancien, quand nous avons usé nos vies en pleurs amères et en soupirs insensés, quand l'âme répandue tombe à travers nos doigts dans la poussière, que c'est une horreur de ne l'avoir pouvoir ramasser, et que devant la dernière goutte qui échappe et qui va sécher, nous restons éperdus et prêts à mourir. Oh, rejetons-nous à tes mamelles, ô notre mère, pour ne pas mourir. Nous y retrouverons le lait jamais tari des émotions saintes. Nous jetterons pour nous rajeunir et nos amours et nos armes et nos douleurs, toutes ces vieillesses anticipées, comme les membres hachés des onds dans cette splendide et bouillonnante cuve des éléments dont les horizons sont les bords et qui écument éternellement sous le ciel. Oui, tes spectacles fortifient, élèvent, rassérènent. Tu convies les hommes à des voluptés âpres et viriles, où les sens et leurs grossiers instincts n'ont plus rien à voir. Où a-t-il pris ce fier regard, ce grand voyageur qui t'adore? Il l'a rapporté de ces monts qu'il vient de mesurer et dont il descend les lèvres et les narines sanglantes, pâles et brisées comme s'il avait vu Dieu. C'est devant toi, la bouche entrouverte, la poitrine pleine de ton souffle, qu'il prenait pour le sien, que l'homme a dit un soir: l'âme est immortelle. Oh, je ne sais pas ce qui est et ce que j'espère, mais ta contemplation m'est sacrée. Une vertu courageuse s'en exhale. L'homme ne compte pour rien devant toi. Ô nature, patrie qu'on adore, trop grande pour tenir à l'abri de nos boucliers, Sparte éternelle qui n'ait jamais besoin de défendre, si tu avais des Thermopyles, il ne faudrait pas que jeter un regard sur les mers et sur tes collines pour devenir un de tes 300. Tantôt, Altaïs, Omegode et Amaïdé s'enfonçait dans les terres en quelque long pèlerinage aux ruines aperçues de la falaise comme des points blancs dans les campagnes. Ils aimaient à se diriger vers des points inconnus, mystères qu'ils allaient pénétrer. Souvent, c'était une église abandonnée, parfois un sépulcre écroulé ou un colombier où ne s'abattaient plus les sonores volées de pigeons, mais où il en revenait parfois un ou deux peut-être, mélancoliques, et bientôt repartis d'un vol rapide, comme les souvenirs dans nos cœurs. Tantôt il restait sur les grèves, assis sur quelques bancs de coquillages, suivant de l'œil la mer qui s'en allait, triste et éternelle voyageuse, dont le manteau bleu traîne à l'horizon quand elle est le plus loin, comme pour empocher l'ordinaire oubli de l'absence. Souvent, il montait dans une barque et errait rêveusement dans le havre assombri des approches du soir. Cet étonnant Altaï, qui semblait avoir tout savoir toute chose, ramait d'un bras infatigable. Car ce bégode, qui ramait aussi, laissait pendre presque toujours l'aviron dans la houle, perdu en quelque adoration muette, comme Renaud au genou d'Armide. Silence qui n'était pas le silence d'Amaïdée, douloureuse créature qui regardait le ciel, la mer, Altaï, Somogod, qui regardait, qui ne voyait pas, pensée tout étonnée d'elle-même. Ses yeux ambrés, après avoir erré comme les regards farouches d'une biche égarée, se fixaient dans le vide, brillants au crépuscule, comme un flot au fond duquel on aperçoit la fauve arène. Un châle, tissu chaud et suave, fragilité pleine d'harmonie, avec ses fragilités plus grandes et plus précieuses encore, qu'elle était destinée à protéger, et qui flottait dans les râpres humides au-dessus de la mer éternelle, enveloppait à prix large et hardi sa taille autrefois si puissante, à présent brisée, amollie, les reins dont la chute voluptueuse gardait l'empreinte d'avoir faibli tant de fois sous les terrassements de l'étreinte, comme ceux de l'archange Lucifer sous la sandale divine de Michel. La vague élevait la voix autour de la nacelle attardée sur ses côtes, célèbre par plus d'un naufrage, et les pêcheurs qui rentraient au havre, passant auprès de cette barque dans le vent et dans la nuit, apercevaient, non sans une terreur superstitieuse, cette trinité intrépide et muette des solitaires de la montagne qui n'avaient pas leur vie à gagner et qui l'exposaient aux brisants. Que, s'ils surprenaient les paroles de ce groupe étrange, c'étaient des paroles singulières, inexplicables qu'on meut, et dont tout leur eût été incompréhensible si le mot de Dieu ne s'y était mêlé souvent. Et un de ces soirs, ils avaient erré longtemps, la nuit noire s'alourdissait sur la mer, et leur barque, bercée dans les vagues phosphorescentes, cinglait encore dans les hauteurs de l'eau. L'écume des flots, fraîche et salée, les frappait au front et sur les mains. Ils n'entendaient que ce bruit de l'eau, si solennel la nuit, quand on n'y voit pas, moins doux mais plus beau que quand la lune jette une large lumière sur leur surface. Amaïdée adressa la parole à Somgon. « Tu es poète, m'a dit Altaï, mais où donc est ta poésie ? Me méprises-tu assez pour me la cacher ? Pourquoi n'as-tu jamais dit devant moi ces chants qui font du bien à toute âme, comme cette langue qu'ils parlent derrière les Alpes, même quand on ne les comprend pas ? Qui te dit d'ailleurs, ô poète, que je ne comprendrais point ce que tu chanterais ? Lorsque je vivais dans les villes, pendant ces nuits passées dans les voluptés qu'Altaï appelle coupables, si un poète, mêlé à nos fêtes, venait à faire entendre quelques mélodieuses paroles, je sentais en moi s'éveiller une foule de puissances endormies. Les autres se mouraient d'ivresse, penchés sur les épaules des hommes, qui leur versaient le double breuvage des yeux et des lèvres, n'écoutant pas, au milieu des joies effrénées et lasses, la voix qui planait sur elle toute comme un esprit invisible dont les ailes faisaient trembler la flamme des lampes et battaient sur les yeux à moitié clos. Mais moi, la rieuse et la folâtre, je me retirais dans une embrasure et je cachais ma tête dans mes mains. Oh, so my God! Ce que j'éprouvais avait un charme si différent de ce que le bonheur, comme je l'avais senti, toute ma vie m'avait appris. Ce n'était pas le bonheur, non. Ce n'était pas non plus la peine, et pourtant, cela faisait cruellement mal et délicieusement bien au cœur. C'était, plus et moins, tour à tour, que la vie. N'est-ce pas là ce que vous nommez la poésie, vous, et que j'aimais, moi, comme tant de choses, sans savoir pourquoi je l'aimais? À ma idée, répondit Sommegod. Tu veux donc que je te livre le secret de mon infortune? Il y a des hommes à qui l'on peut dire « Qu'as-tu souffert? Qu'as-tu aimé? De quoi as-tu joui depuis que tu es dans le monde ?» Altaï, que tu vois, ramant à l'autre bout de cette barque, est un de ces riches de misère, frappés par Dieu de l'infinité des douleurs. Et moi, je n'ai pas été l'objet de cette terrible munificence qui fait les hommes grands entre tous. Moi, je n'ai qu'une misère pour ma part. Moi, je meurs comme les lys et l'hermine, d'une seule tache tombée en mon sein. Toute la question qui résume ma vie est celle que tu me fais aujourd'hui. Tu es poète, où est ta poésie? Oh, Amaïdé, de poésie, je n'en ai pas qui m'appartienne. Le torrent divin qui tombe du ciel dans ma poitrine y engouffre son onde et sa voix. L'homme a menti dans son orgueil quand il s'est enchanté lui-même de la balbutie de ses lèvres. Il jouait au Dieu en s'efforçant de créer avec sa parole, mais la nature l'écrasait de son calme pur de dédain. Oh, si l'on m'eût donné le choix, j'eusse mieux aimé peut-être risquer ce mensonge que de sentir un doigt qui n'était pas le mien, comme celui du dieu Harpocrate, faire peser le silence sur ma bouche esclave. Mais hélas, l'alternative me manquait. Et voilà pourquoi j'ai souffert. Amer tourment de l'impuissance. Quoique ce fût encore plus l'impuissance de l'homme que de Sormgod. Ma vie s'ensanglanta de cette lutte furieuse que tout homme a avec soi-même avant de prendre son parti sur soi. On le prend enfin, on le prend ce parti désolé et funeste. Mais quelle consommation de la vie! Oh, Amaïdé, oh, Amaïdé, ne me demande pas mon histoire. Les vies de tous se ressemblent plus qu'on ne croit. Femme ou poète, quand la souffrance intervient dans les battements de nos organes, cette souffrance est un désir que rien n'étanche, et les hommes l'ont nommé l'amour. Qu'importe l'objet de ce désir funeste, qu'importe la pâture dont cet amour ne pourra jamais s'assouvir, le sentiment ne perd point de sa formidable intensité, parce que, ma pauvre lesbienne, tu ne voyais sur les rivages que les voyageurs entraînés par toi au fond des bois, parce que dans tes nuits ardentes et vagabondes, tu ne releveras jamais ton voile pour admirer l'éclat du soleil. Est-ce à dire, ô Amaïdé, qu'il n'y avait à aimer que ce que tu aimais? Est-ce qu'auprès de l'homme il n'y avait pas la nature? Est-ce à dire que toutes les adorations de l'âme finissaient toutes à l'amour comme tu le concevais? Eh bien, moi, j'aimais la nature, et toute ma vie fut dévorée par cette passion. Je l'aimais avec toutes les phases de vos affections inconnues et que j'entendais raconter. Je reconnaissais au récit des hommes et au chant des poètes consacrés aux amantes que ce que j'éprouvais avait toutes les réalités de l'amour. Ce ne fut d'abord qu'une douce rêverie au sein des campagnes, des larmes venues vers le soir. un plongement d'yeux incessant dans les immensités du ciel, quand, assis sur quelque tertre sauvage, j'ai oublié la voix de ma mère ou de mes sœurs, promenant alentour ou que seul, je pouvais à peine m'arracher à la vie, à la nuit, vers le tard. Les mères se méprennent souvent aux tristesses de leurs fils. La mienne m'envoya dans les villes. J'y vécus pendant quelques années. Je pris ma part du grand festin d'une main languissante, et à la première coupe tarie, sans désirer, sans ivresse, je fus au lieu que j'avais quitté. J'y rapportais la même froideur et un front plus chargé d'ennui. Bon, je n'étais pas malheureux, mais j'allais l'être. J'ignorais de quel nom appeler mes regrets et mes espérances. J'ignorais vers quoi montaient les élancements de ce sein que des femmes belles comme toi, ô Amaïdée, n'avaient ni troublé ni tiédi. Je ne me sentais pas de tendresse pour ma mère et mes sœurs, et je passais, pour ainsi dire, à travers leurs embrassements pour aller revoir la nature. Je la revis avec des larmes, avec des bonheurs sanglotants et convulsifs. Ce jour-là, je sus ce que j'avais. J'avais lu souvent de ces livres que les hommes disent pleins de l'amour de la nature, mais qu'ils me paraissaient imparfaits et froids, qu'ils me disaient peu ce que je devais attendre de l'avenir. C'est qu'une passion tenait ma vie dans ses serres d'autour, et que les hommes les plus éloquents dans leur culte de la nature n'en ont parlé que comme on parlerait de beaux-arts. Ils ont admiré la grande déesse, la Galatée immortelle, sur son piédestal gigantesque, mais ils n'ont jamais désiré l'en faire tomber pour la voir de plus près. Ils n'ont jamais désiré clore avec la lave de leurs lèvres la bouche de marbre dédaigneusement entr'ouverte. Hélas, tout à l'heure encore, votre amour à vous m'impose ces images pour exprimer ce que je ressentais. Ah, exprimer l'amour, cela vous est possible. Mais moi, ma idée, je ne puis. Et tu me demandes où est ma poésie? Mais elle est toute dans cet inexprimable amour qui l'a clouée comme la foudre au fond de mon âme où elle se débat et ne peut mourir. En vain je m'épuise en adorations sublimes ou insensées. J'ai pitié de mon éloquence. Vous, du moins, vous pouvez vous saisir, vous rapprocher, mêler vos souffles et féconder vos longues étreintes. Mais moi, je croise mes bras sur ma poitrine soulevée, et impuissant devant l'infini, je reste succombant sous les facultés de l'homme inutile. Tout amour commence par l'ivresse, un pur nectar dont la lie n'est pas loin et brûle, mais on ne se fait point sa part dans l'amour. Il faut boire encore, boire toujours, pourvu qu'il en reste. On vomirait plutôt son cœur dans le calice que le fatal calice ne reculerait. À regarder si longtemps l'être adoré, on s'exalte, on s'irrite, on veut. Quoi donc, ô créature humaine? Posséder, crie du fond des débreux de nous-mêmes une grande voix désolée et implacable. Posséder, dit-on tout brisé de l'idole, tout flétrir et d'elle et de soi. Mais comment posséder la nature? A-t-elle des flancs pour qu'on la saisisse? Dans les choses, y a-t-il un cœur qui réponde au cœur que dessus l'on pourrait briser? Rochers, mers aux vagues éternelles, forêts où nos jours s'engloutissent et dont ils ressortiront demain en aurore, comme un phénix couleur de rose échappant des cendres d'hier brûle dans les feux du soleil, cieux étoilés, torrents, orages, cimes des monts, éblouissantes et mystérieuses, n'ai-je pas tenté 100 fois de m'unir à vous? N'ai-je pas désiré à mourir, me fondre en vous, comme vous vous fondez dans l'immense dont vous semblez vous détacher? Mais avec ces bras de chair, je ne pouvais pas vous saisir. sublime dérision de l'homme. Aussi, étendu en face des perspectives idolâtrées, haletant après les désespérants horizons qu'on ne peut toucher, malade d'infini et d'amour, je me consumais en angoisses amères. La chevrière de la montagne, qu'il avait vue le matin, m'y retrouvait le soir plus pâle, et s'enfuyait épouvantée, comme si un sort eût été sur moi. Souvent, je me plongeais dans la mer avec furie, cherchant sous les eaux cette nature, ce tout adoré, extravasé des mains de l'homme, insaisissable et si près de nous. Et après des heures d'une poursuite insensée, la vague me rejetait inanimée au rivage, la bouche pleine d'écume, presque étouffée et tout sanglant. Mais le désespoir durait encore. Je mordais le sable des grèves comme j'avais mordu le flot des mers. La terre ne se révoltait pas, plus de ma fureur que n'avait fait l'océan. Autour de moi, tout était beau, serein, splendide, immuable. Tout ce que j'aimais, tout ce qui ne serait jamais à moi. Ah, le moi, dilaté par le désir et la rage, craquait au fond de ma personnalité. Pour le délivrer de la borne aveuglante, pour briser son enveloppe épaisse, je tournais mes mains contre ma poitrine. Des griffes de lion du passé étaient plus terribles. Un enthousiasme ineffable me soutenait dans le déchirement de moi-même. Incurable faiblesse des passions, un soleil couchant sur la mer, quelques beaux spectacles dans les nues, un parfum apporté par les brises, interrompait l'acharnement du suicide, et je joignais mes mains sanglantes et je tombais à genoux devant cette merveilleuse nature, trop belle pour que je voulusse la quitter. Je me sentais rattaché à la vie par l'idée que l'âme, se mêlant au parfum universel, y doit tomber, submergée, perdue, et je ne voulais pas anéantir mon amour. Ainsi je répudiais courageusement les promesses du panthéisme, car c'étaient ces orages maudits et blessés qui mettaient entre moi et la nature les rapports d'où naissaient et mon bonheur et ma souffrance, et dans l'incertitude de les détruire, j'aurais refusé d'être Dieu. Voilà pourquoi, ô Amaïdé, Altaï t'a dit que j'étais poète, mais je n'étais hélas que le martyr de mes pensées. Hommes et femmes qui avaient des regards et des caresses, vous qui pouvez dénouer des chevelures et confondre la flamme de vos bouches incombustibles, c'est vous qui êtes les poètes, et non pas Somme God. Dans l'isolation de mon impuissance, pour me soustraire à ce néant qui m'oppressait, je cherchais parfois à refléter cette âme épanchée sur les choses dans le langage idéal que je rêvais. Mais je n'avais point été frappé du magnifique aveuglement des prophètes. Je comprenais ma parole. Miroir concentrique de la nature, celle-ci le brisait en s'y mirant. Alors, d'une honte inépuisable contre moi-même, je déchirais les feuilles trempées de mes larmes insomnieuses et je les dispersais autour de moi. Comme les feuilles de la sibylle répandues sur le seuil de l'antre sacré, un vent divin ne les levait pas de terre pour les emporter au bout du monde. Je les ai vus tourbillonner quelquefois du penchant de la falaise jusqu'à la mer qui mugit au pied. Je les suivais avec des angoisses d'une mer infanticide. Vagues sombres, blanches écumes, aquilons rapides, qui de vous les dévorait le plus vite, qui les cachait le plus à mes yeux? Je croyais encore que c'était elle, et puis je m'apercevais que ce n'étaient que les ailes des goélands au-dessus des flots. Alors, assis dans une consternation profonde, je ressemblais à l'homme qui vient de vider sur l'autel des dieux la coupe de son sacrifice sans avoir pu les apaiser. Ne me demande donc pas où est ma poésie, Amaïdé. car tu renouvelles mes douleurs. Vois, ô femme, la lune surgit là-bas et nous atteint de ce rayon qui vient de nous éclairer tous les trois, à la lueur qui lisse les marbres où le temps laissa son empreinte, mais qui ne rajeunit pas les visages vieillis. Voir ce front sénile et tâte cette poitrine crevassée comme les flancs des rochers d'alentour. Cherche là ce que j'ai souffert avant de me résigner aux bornes de moi-même, à la voix forte d'Altaïr. Tu as recueilli dans la vie les voluptés et l'insulte. Cette double flétrissure s'est acharnée sur toi longtemps. Tu as dépensé bien des souffles sur les lèvres d'hommes qui te les renvoyaient empoisonnés ou qui ne te les rendaient pas. Tu as dépensé bien des larmes sur la couche où tu t'éveillais seul et humilié à l'aurore, pâle de la nuit et de regret, dans des voiles souillés et froidis. Tu as ouvert ton cœur à toutes les amours, et ils y sont venus plus nombreux que les cheveux dressés sur ta tête, plus ruisselants de larmes amères que ne le seraient ces mêmes cheveux détordus et plongés par toi dans la mer. Tu es femme, et cependant, tu as mieux résisté que moi, homme de la solitude, nourri de simples au sein des montagnes. Juge donc de l'intensité de mon mal et de sa durée. Juge-en, si tu peux, créature fragile, dans l'éphémérité de ton cœur. Ne me demande plus où est ma poésie. Elle est là, mais je ne l'ai pas faite. Elle est là, partout, comme un génie muet, un sphinx charmant et ironique à la fois, dans cette nuit où j'étends la main. Somegod se tut. On n'entendit plus que la vague qui pantelait contre les flancs de la barque et le coup de rame d'Altaï. La Maïdée avait-elle compris le poète, ce grand poète qui ne créait pas? Peut-être. N'avait-elle pas eu des désirs insatiables comme les siens? Quand les nerfs se convulsent et que la nature succombe sous une poitrine, dans une impuissante pâmoison, que les yeux restent blancs et sans prunelles, comme ceux d'une statue dont on a la raideur et l'inertie, n'avait-elle pas senti confusément qu'en sombrant ainsi dans la vie, au bras de ceux qui ne pouvaient l'en rassasier d'une goutte de plus, il y avait une dernière étreinte impossible, comme celle de Somegod, les mains étendues vers les horizons infinis? Peut-être, car elle lui tendit la main, mais il ne la prit pas. Son esprit s'était perdu sur les vagues et roulait avec elle vers les grèves, étincelante de l'écume du flot et des coquillages frappés des rayons de la lune. Le mélancolique récit du poète avait-il réveillé en elle ses cordes assoupies depuis quelques jours? Il faut si peu à ces âmes mobiles et précipitées qui ne jettent l'ancre nulle part pour dériver sur le flot où elle s'était arrêtée, plus languissante. « Oh, Altaï, » dit-elle avec une voix plaintive, « as-tu entendu ce que ce Somegod a dit de toi? Oh, le plus grand malheureux de nous trois, c'est toi ?» Qui a apaisé Somegod? C'est toi qui veux relever à Maïdée? Mais quel es-tu? Le poète le sait-il? Oh, je te conjurais de me l'apprendre, puisque toi, dont la parole est si pleine de charme, tu dédaignes de parler de toi. As-tu aussi au cœur quelque passion qui ait absorbé toute ta vie et qui rend impossible l'amour? Altaï répondit après un silence. « Oh, ne me demande pas ce que je suis, Amaïdée. Je te le dirai peut-être si tu ne m'aimais pas. Je te le dirai sans doute, si alors tu tiens encore à le savoir, le jour que tu auras cessé de m'aimer. »« Cessé de t'aimer ?» lui dit-elle. « Oh, Altaï, pourquoi donc m'affliges-tu toujours? Tu me méprises, je le vois bien. Ton orgueilleuse vertu a ramassé une courtisane dans les sentiers impurs où elle marchait. Mais pour toi, comme pour les moindres pitoyables entre les hommes, cette courtisane était indélébilement flétrie. et l'altération de sa voix ne lui permit pas d'en dire davantage. Son passé lui revenait en mémoire, et quand la destinée nous abat, il est bien terrible de trouver dans ce passé une justification de la destinée et l'absolution de la douleur. « Tu es injuste, Maïdée, » reprit Altaï avec son accent profond et calme. « Tu sais bien que je n'ai jamais pensé ce que tu dis. Te mépriser? Et pourquoi, pauvre créature? Ne m'as-tu pas dit que l'éducation n'avait pas orné ta jeunesse? Que les enivrements de ta vie ne te pouvaient étouffer le remords du vice, la honte de ton abaissement? Des mille pudeurs de la femme, ton front qui rougissait dans tes aveux, n'en avait désappris aucune. Mais à ta place, ô mon enfant, toutes les femmes auraient succombé, elles auraient souillé jusqu'à l'âme. Toi, tu n'as prostitué que le corps. Mais non, je ne te méprise pas. Je t'estime encore comme un précieux fragment, échappé à la fureur d'hommes grossiers. Guéris-toi de cette passion, qui n'est pas même profonde, et tu deviendras ma sœur. Le veux-tu? Le temps marchait cependant. L'automne venait. La vie, qui, pour Sommegode, n'était que le mouvement général du monde, répercuté fortement en lui avec tous les tableaux qu'il entraînait, la vie, pour lui, était variée. Le côté humain des amants et des poètes, les pieds d'argile de la statue d'or, c'est l'ennui qui n'achève pas et se détourne, dédain stérilement avorté. Mais Sommegode n'avait pas cette grande inégalité dans sa nature, coulée d'un seul jet des mains de Dieu. Second terme d'une proportion divine dont la création était le premier, il était passif, quoique agité dans son génie. Les choses devaient lui imposer éternellement l'extase, où Dieu aurait brisé le monde avant lui. Mais pour les deux autres de Sommegode, la vie devait être plus uniforme, plus immobile. Il n'avait pas le poème de la création à chanter intérieurement et sans cesse dans leur âme. Pan n'était pas leur dieu. En vain, Sommegode, à la prière d'Altaï, avait essayé d'initier Maïdée au mystère qu'il comprenait si bien, aux fêtes solitaires de la nature. Mais la femme nerveuse avait trop vécu dans le fini pour sympathiser avec ces grands spectacles, pour être longtemps accessible à ses simples aspirations. Quand elle avait promené sur la grève, ramassé au flanc des falaises quelques fleurs dont Altaï lui expliquait les secrètes origines, lavé ses pieds dans l'eau laissée par la mer dans la crevasse d'un rocher et tressé ses cheveux sur sa tête, elle s'abandonnait avec inertie au cours des heures. Hélas, toujours elle avait été aussi oisive, mais sur les divans où elle avait passé ses jours dans le lazzaronisme du plaisir, elle n'avait pas besoin de résister à cette mollesse qui l'engourdissait en la touchant. Aujourd'hui, elle avait peine à se plier à cette existence dépouillée et rude qui frappait ses délicatesses comme un vent acéré et froid. Elle était malade de civilisation. Souvent, Altaï la prenait avec lui, et laissant le poète dans sa rustique demeure, ils allaient errer aux environs. Il revenait après de longues heures, fatigué, brûlé du soleil, se traînant à peine. Que s'était-il dit dans ses courses? Maïdée était plus abattue, son œil plus vague, sa bouche plus dégoûtée, son front plus ennuyé. Mais Altaï ne changeait pas. Il avait toujours cette sérénité désespérante, ce front et ses yeux usés de bonheur et où il ne restait plus de place que pour le génie. Rien ne vainquait cette patience sublime. Elle le mettait en dehors de l'existence. Il ne passait point de l'intérêt à l'ennui comme les autres hommes, comme Maïdée. Seulement, si l'ennui lui manquait, nul intérêt ne le soutenait non plus. Si Altaïr avait appris qu'un pêcheur fût malade ou dans la détresse, il allait le visiter avec Amaïdé, et il lui prodiguait tous les deux les secours dont il avait besoin. Il aimait avoir cette femme qu'il voulait relever par les jouissances idéales et vertueuses des abaissements du passé, se passionner dividement à faire le bien. Mais le seuil passé, les larmes qui avaient resplendi dans les yeux de la femme se séchaient sous je ne sais quel souffle aride qui effaçait la larme répandue, mais qui n'en tarissait pas la source. Chez cette âme bonne et énervée, les joies de la vertu n'avaient pas plus de durée que le troublant bonheur des passions, et elle était toujours apte à les éprouver de nouveau, quand déjà et si vite, voici qu'elle ne les éprouvait plus. Un jour, le philosophe dit au poète, « J'avais raison, ô Somgon, d'être impie à l'espérance. L'effort que je demandais à Maïdé était trop fort pour elle. On ne relève pas une femme tombée, et toujours la chute est mortelle. Amaïdé s'est enfuie ce matin. Enfuie ? Dit Somgod. Oui, enfuie, reprit Altaï. Elle n'aurait pas même eu le triste courage de me dire en face, je vais vous quitter. Ne la condamne point, mon ami. Elle obéit à sa nature. C'est pour ceux qui n'ont jamais vécu de la vie de l'âme qu'il y a une fatalité. Maintenant, l'action voulue par moi est achevée. L'avortement de mon dessein est accompli. Ce n'est point une femme corrompue. Elle a des larmes et des rougeurs. Elle se dévouerait encore si elle pouvait aimer. Mais l'amour qu'elle éprouve est inerme et rapide comme sa volonté, impuissant. Tu vois, elle disait qu'elle m'aimait, et c'était vrai. Voilà pourquoi elle était venue. Mais cet amour s'est usé en quelques mois, trame précieuse employée à trop d'usage pour pouvoir résister longtemps. Cette vie nouvelle que je lui créais ne l'a retenue que parce qu'elle lui était nouvelle. Mais cette vie s'adressait trop à des facultés qui ne s'étaient jamais éveillées dans son âme, qui étaient mortes en germe sous les affaiblissements de la volupté, pour que bientôt elle ne s'en détachât pas. En achevant ces calmes paroles, Altaï tendit une lettre à Somgod. Celui-ci la prit et la lut sous les rouges rayons du couchant, qui semblait se dépouiller de sa toison de pourpre pour revêtir la terre, magnifique charité d'un beau ciel aux obscurités d'ici-bas. « Quand tu liras cette lettre, ô Altaï, je serai parti. J'aurai regagné les villes d'où je viens. M'accuseras-tu, toi que j'ai aimé et qui ne m'a pas aimé, toi le seul homme de la terre dont je redoutasse le mépris? Hélas, si tu m'avais aimé, j'aurais oublié la vie écoulée. Je serais peut-être devenue forte comme toi. J'aurais peut-être résisté au calme étrange de la solitude dans laquelle tu m'avais déposé. Cela m'a manqué, Altaï. Je te le dis avec tristesse, mais sans larmes. Je ne pleure pas en m'éloignant de toi, mais seul, mais avec toi, mais avec Somgod, mais seul, quoique avec tous deux. Oh, la vie était impossible. Je ne vous ressemble pas, à peine si je vous comprends. Vous, vous passez les jours à parler de Dieu et de l'âme, faisant avec la vie comme ce grec dont tu m'as raconté l'histoire faisait avec la coupe de Sigu, qu'il tarissait d'une intrépide lenteur. Vous êtes là, recueilli, austère, mais souriant bonnement à la faible femme que le monde insulte et condamne, et que vous, les sages, ne condamnez pas. Je vous trouvais si beau d'abord, que je vous admirais et pris courage à vous entendre, vous demandant entre vous deux une place que je ne croyais pas quitter. Hélas, l'esprit que vous aviez élevé en moi s'est bientôt évanoui et m'a abandonné. je ne puis avoir la majesté de votre attitude éternelle. Vous êtes trop grand. La nature aussi, que Some God adore, m'est demeurée inaccessible. Elle et vous ne pouvez vous emparer de ma misérable existence. Je ne demeure pas sur ces sommets, et le moindre souffle me remporte. Ô toi qui rien n'échappe, ô Altaï, as-tu deviné que je partirais? Tu n'as jamais eu grand courage. Tu n'accueillais pas l'espérance que j'osais te donner. Tu m'as toujours intérieurement méprisé, quoique ce mépris fût doux et bon. La nature et vous, homme incompréhensible, ne me suffisaient déjà plus. Altaï, toi qui aurais pu t'emparer si violemment de tout mon être, toi qu'avoir vu grave et fier au milieu des autres hommes, usé du frottement des caresses, m'attacha à toi comme si j'avais été jeune et enthousiaste, pourquoi as-tu replié sur ta poitrine ce bras qui aurait servi à me soutenir? Hier, quand je regardais ces sveltes et brunes filles, les chevrières de la montagne, après m'être assise sur le vase de cuivre où elles ont enfermé le lait écumant, voyais-tu que je m'ennuyais? Au sein de ce groupe de femmes jeunes, vigoureuses, de contours purs et arrêtés, sustentées de soleil et d'indépendance, cette généreuse nourriture qui les rend si fortes et si belles, n'as-tu pas senti la différence qui séparait de ces filles debout et à la tournure de guerrière, la femme écrasée, assise devant elle, pâle, fatiguée, blessée 100 fois à la même place, saignante de volupté sous la robe traînante comme d'une flèche que tu n'avais pas pu arracher? N'as-tu pas eu pitié de mes pâleurs? N'as pas eu pitié de la main amaigrie qui soutenait ce front qui fut beau et où les souillures des lèvres et de l'existence ont effacé les mâles couleurs de la jeunesse? Hélas, je pensais que j'avais été comme ces jeunes filles qui me regardaient sans comprendre comment on pouvait être en même temps jeune comme elles et d'une vieillesse qui n'était pas celle de leur mère, et je pensais aux montagnes du pays où je fus élevé, à ce Jura où je marchais nu-pied, forte, belle, heureuse et pure. Ah, cette pensée était navrante. Ma jeunesse m'apparaissait comme un songe que je ne recommencerais pas. Tu ne pouvais pas me le rendre, mais me l'eusses-tu rendu, Altaï, que je l'aurais refusé. Tu me parlais de me purifier, mais tout le temps qu'on a un souvenir du passé, c'est la chose impossible. On ne voudrait pas, ô misérable, n'avoir pas existé comme on a vécu. Adieu donc, Altaï, adieu. Oublie-moi. Je ne t'écrirai point que je ne t'oublierai jamais, que t'importe. Dans ta supériorité mystérieuse, n'es-tu pas détaché de tout? Ta bonté même n'est-elle pas un dédain plus profond que celui qui blesse? Ah, si tu avais été plus vulgaire, peut-être serais-je resté auprès de toi. Ne m'eusses-tu pas aimé, et du moins tu aurais eu une pitié que j'aurais comprise. Un autre que toi rirait des mollesses de mon âme, mais ton orgueil ne ressemble à celui de personne. Aussi demeurais-je vrai avec toi. Je retourne à ma vie errante. J'en suis las et je ne saurais m'en passer. J'y retourne non point rapidement et le cœur palpitant, comme il arrive quand on va rejoindre ce qu'on aime. Je n'aime pas ce que je vais retrouver. Ah, les hommes sont bien fous s'ils croient que c'est une passion qui décide toujours de la vie. Bien souvent l'ennui m'énervait plus douloureusement auprès de toi que les voluptés laides et grossières, sans charme pour les sens hébétés, mais ignoblement nécessaires au vide du cœur et de la vie. Some God avait fini la lettre. Cette lettre qui venait d'apprendre à ces deux hommes que la supériorité ne servait à rien ici-bas, et que pour avoir action dans ce monde au nom de la vertu même, il fallait descendre amère vérité qui écrasait douloureusement l'esprit du philosophe et qui glissa sur celui du poète. Le soleil venait de tomber dans la mer, incendié de ses feux. Les brises apportaient ce parfum caché dans les vagues, frais et pénétrant, ineffable, digne de la végétation inconnue du fond des eaux. Des goélands criaient sur les pics débrisants, et le ciel, chargé de nuages amarantes et orangés vers les bords, semblait folâtrer avec les flots. Ce spectacle avait emporté l'esprit de Sommegod. Le sublime enfant venait d'oublier la désespérante vérité dont il avait entrevu la lueur. Altaï, qui respectait la poésie comme une fille de Dieu, ne le tira pas de sa contemplation silencieuse. Tel qu'un homme dont la sandale est plus usée que le courage, il descendit la falaise, sans abattement au front et appuyé, comme un roi antique, sur son bâton de voyageur. Il était déjà loin quand Sommegod retourna la tête. Le poète se pencha sur une pierre de la falaise, coupée à pic de ce côté, et il le vit qui s'en allait le long du rivage. Il ne l'appela pas pour lui demander où il allait. Il le savait sans doute. Mais pour la première fois de sa vie, il regardait cet homme qui s'éloignait avec l'admiration que lui inspirait ordinairement la nature. Depuis ce jour, Sommegod est seul sur la pierre de sa porte au soir.